La violence de l'étonnement peut révolutionner notre vision du monde et de nous-mêmes en remettant tout en question.
Parce que le véritable problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, notre rapport au monde, notre être à l'espace, fait de l'éradication systématique du vivant une finalité.
La vraie vie, elle est ailleurs. La vraie vie, elle n'est pas dans faire beaucoup de choses, s'agiter, avoir sa Rolex à 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? La vie, elle n'est pas là. C'est ce que nous disent les poètes depuis toujours.
On oublie qu'émerveillement ne signifie pas naïveté.
L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes.
Nous sommes Pierre-Hugo Laplace et nous souhaitons la bienvenue sur notre podcast autoproduit pour Tract et Since Nothing. Au fil des épisodes, nous allons à la rencontre d'artistes, scientifiques, philosophes ou citoyens qui, par leurs travaux ou leurs réflexions, développent des discours alternatifs ou subversifs, c'est-à-dire en rupture avec nos imaginaires sociétaux actuels. Ensemble, nous déconstruisons les évidences qui nous empêchent trop souvent de percevoir l'étrangeté de notre quotidien. Quand bien même qu'il soit joyeux, dangereux, mélancolique ou amoureux, l'émerveillement a mille facettes qui n'attendent qu'à être embrassé. Nous tenons à préciser que nous basons au maximum nos entretiens sur la base de discours validés scientifiquement, rationnels ou basés sur un argumentaire solide au plus proche du réel et des faits, au-delà de nos simples interprétations, afin de valider ou non certaines hypothèses et ainsi nous doter d'une nouvelle grille de lecture fiable de notre environnement. L'art peut-il remettre en cause les dogmes qui régissent actuellement nos sociétés capitalistes ? Quelle est notre capacité en tant que communauté humaine de remettre en cause nos comportements aujourd'hui destructeurs pour notre environnement et nos conditions d'habitabilité de la Terre ? Y a-t-il un déjà-là au sein même de nos sociétés nous permettant d'entrevoir une porte de sortie vers un monde plus poétique ? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Benjamin Dousseau, frontman du groupe de metalcore français Prozaïk. Originaire de Dijon, Prozaïk a sorti son premier album Define the Gravity en 2025, où le groupe aborde des problématiques liées à la santé mentale, nos rythmes de vie qui nous enferme peut-être dans une vie trop prosaïque, d'écologie ou encore de notre rapport avec les réseaux sociaux. Nous remercions grandement Benjamin pour son temps et Prozaïk de soutenir nos différents projets et nous laissons place à notre conversation avec Benjamin.
Salut Benjamin.
Salut, vous allez bien ?
Salut, ça va et toi ? Ouais.
Ça va, ouais, merci.
Bah, merci à toi d'avoir accepté notre invitation pour... Voilà, pour enregistrer ce nouvel épisode de notre podcast, donc on va parler de ton groupe qui s'appelle Prozaïk et puis du dernier album que vous avez sorti. Bah, ça nous fait bien plaisir que tu sois parmi nous ce matin.
Bah, plaisir partagé, hein. Ça fait super plaisir d'être avec vous aussi, donc c'est tout cool.
Pour commencer tout doucement cet épisode, est-ce que tu peux déjà un peu nous raconter comment t'as commencé la musique et comment t'en es venu à ce genre-là qui est plus tourné vers le metalcore ?
Ouais, avec plaisir. Je sais pas s'il faut repartir de la base, mais moi j'ai grandi dans une famille où on écoutait beaucoup de hard rock, donc c'était presque une évidence. Enfin, tout ce qu'on écoutait, il y avait une guitare électrique dedans, donc j'ai été bercé avec AC/DC, avec Kiss, enfin même Indochine où il y avait aussi Goldman. Et c'est plutôt en grandissant, à partir du moment où je suis arrivé au collège, j'ai commencé à écouter des groupes comme Slipknot. Bring Me The Horizon, et c'est vers l'âge de 16 ans que j'ai voulu me tourner vers la musique. Donc j'avais essayé les instruments avant, mais j'étais très mauvais. Et attention, je dis pas que je suis très bon chanteur non plus, mais voilà, en fait, facilement je me suis tourné vers le growl, donc ça a mis quand même 10 ans à ce que j'ai une vraie technique. Et enfin, c'est un passe-temps qui m'a toujours tenu en haleine. On a monté plusieurs projets, les tous étaient différents, et je trouve que là, avec Prozaïk, on a trouvé la structure qui nous convient à tous les 5 voire même 6, parce qu'on a un ingé son qui nous suit sur tous les concerts. Donc ça s'est fait plutôt naturellement en fonction des groupes que j'écoutais et des personnes que je rencontrais, je dirais.
Ouais, puis Prozaïk, il y a un côté aussi un peu DIY qui est cool, parce qu'il y a aussi Antoine, si je ne trompe pas, le batteur, là, c'est lui qui a monté aussi l'album, justement.
Ouais. En fait, tout a été enregistré à la maison, et à la base, on avait Jérémy qui faisait les mix et qui faisait un master après là-dessus, mais donc notre bassiste. Mais il avait beaucoup trop de boulot, là il retapait une maison, donc là on s'est plutôt tourné vers Antoine qui a progressé de fou, et qui nous a permis de sortir Tiffany Gravity entièrement fait à la maison quoi. On a été masterisé quand même à côté, mais le gros du travail a été fait par Antoine et c'est vraiment un très très bon travail je trouve.
Hop, avant de continuer, sachez que chez Tract, nous ne faisons pas que des podcasts ou des vidéos. Notre souhait est de déconstruire et d'analyser les effets néfastes de notre société actuelle, comme les discriminations, les pressions sociales ou encore la crise environnementale, de déconstruire les évidences qui nous font penser que trop souvent la vie est ainsi faite, tout en réfléchissant et en promouvant de nouvelles façons de concevoir cette dernière à travers un prisme poétique. Pour soutenir notre travail, vous pouvez vous rendre sur move.tract.fr, le lien est en description de cet épisode, afin de découvrir l'ensemble de nos champs d'action entre production médiatique et artistique ou encore organisation de débats et pourquoi pas adhérer à notre association si vous souhaitez rejoindre notre collectif et nous aider à développer nos contenus et nos actions. Merci et bon podcast.
Justement on va parler de cet album là qui est sorti en 2025 qui s'appelle Define My Gravity. C'est votre premier album, c'est ça?
Ouais, c'est le premier album avec Prosaic, ouais.
Et du coup en fait qui parle de plein de sujets différents qui nous intéressent quand même pas mal parce que à travers cet album, vous avez quand même souhaité, j'ai l'impression, parler d'une sorte de remise en question des êtres humains, de nos torts et du rapport aux nouvelles technologies. Comment est venue l'envie de parler de tous ces sujets?
Ça traite pas mal de sujets sur l'être humain, sur le rapport à l'écologie et à l'impact qu'on a sur la planète. Et à côté de ça, il va y avoir tous les sentiments, je dirais, assez sombres. On va parler peut-être un peu de dépression. C'est un peu camouflé dans les textes quand même, parce que j'aime pas être trop direct dans ce que je peux raconter. Mais alors j'écris les textes tout seul et je fais corriger et je montre un peu aussi aux gars, mais... je trouve que c'est important d'avoir quelque chose à mettre en avant dans la musique, surtout qu'on produit nous. Donc en fait, ça part un petit peu des idées que je peux avoir dans ces moments-là. J'imagine qu'on a tous traversé des périodes un peu plus difficiles que d'autres, et je pense que c'est important de pouvoir le retranscrire dans les chansons, sachant qu'en plus, je trouve qu'on est assez pudique sur les sentiments et les émotions de manière générale. Donc en fait, moi, ça me permet de pouvoir parler de certaines choses que je ne parlerai presque jamais avec ma famille ou avec les amis, quoi. Donc, pour moi, c'était assez naturel d'écrire dans ces registres-là. Et puis, ça permet d'étaler un petit peu ce qu'on peut penser et de trouver des gens qui sont en accord ou pas en accord. Ça permet d'ouvrir aux discussions. Ça permet, je trouve, beaucoup de choses, du coup. Et sur des choses négatives comme la dépression, on en ressort du positif. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, je ressens par rapport à tout ça, ouais.
On va parler de différents titres, parce que, du coup, tu nous avais envoyé gentiment les paroles des titres. Puis comme ça, ça vous permet un peu de creuser le fond. On va commencer par le morceau Moment of Calm, qui traite du bruit constant dans lequel on vit. Quand on lit les paroles, est-ce qu'on peut y voir aussi une sorte d'appel à ralentir le rythme, à la fois personnellement, mais aussi sur le fonctionnement de notre société et de, on le sait, de toutes les injonctions qu'on subit?
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, c'est vrai que dans Moments, ça c'est assez clair, je trouve. C'était peut-être une des plus simples à déchiffrer en musique, en tout cas au niveau du texte. Et oui, c'est ça. En fait, j'ai vécu en campagne jusqu'à mes 21, 22 ans. Et après, j'ai pris un appartement en ville. Et en fait, il y a un gap quand même assez lourd. Et la ville t'apporte aussi beaucoup de choses. Mais il y a aussi tous ces côtés assez négatifs. Il faut toujours faire plus vite les choses. C'est vraiment une accélération du niveau de vie qui est pas toujours, pas toujours souhaitable. Et du coup, j'ai eu mon premier enfant en ville. Il est resté 2 ans et demi dans un appartement de 50 mètres carrés. Il y a un truc qui allait pas pour moi et avec ma conjointe, on s'est très vite dit qu'il fallait se rapprocher quand même d'un endroit où on peut vivre paisiblement, quoi. Donc, on s'est rapproché de la campagne et je trouve que ça va beaucoup mieux. Et le texte a été écrit un petit peu dans ces moments-là où en fait on se rend compte qu'il y a une fracture, quoi. Il y a une fracture entre la société que tu peux vivre en ville et la société qui se vit à la campagne. Et ça traite aussi un petit peu dans le domaine de la psychologie, les pensées sont pas aussi claires aussi, je trouve. Enfin, il y a un truc qui est, tu vis dans une espèce de brouillard. C'était le truc que je voulais raconter un petit peu, surtout à la fin, où on a l'impression de s'en être sorti et en fait on se réveille dans une camisole de force. Il est très il est très comment direct le texte et se réveiller en camisole de force, c'est aussi l'emprise que la société a de toi, même quand tu en sors, enfin sortir de la ville, je veux dire. Donc oui, c'est ça, c'est l'impression de se réveiller d'un cauchemar, mais pour retomber dans un nouveau cauchemar. Donc j'ai toujours un aspect assez négatif sur mes textes, mais enfin voilà, c'était à peu près le sujet que je voulais traiter sur ce texte-là. Il est venu assez vite, je trouve. Celui-là, c'était assez naturel d'en parler parce que je vivais aussi cette période-là. À ce moment-là, quoi.
Ouais, mais t'as vraiment ressenti en fait cette différence entre la campagne et la ville. Alors, je sais pas dans quelle ville c'était à ce moment-là, mais c'est que t'as aussi des villes où qui sont peut-être parfois plus petites et où tu ressens peut-être un peu moins ça. Mais ouais, toi, t'as vraiment ressenti cette grosse différence entre les deux, quoi.
Ouais. Bah nous, on est originaire de Dijon. J'étais à Dijon même. Et oui, en fait, déjà, ça m'a fait vraiment bizarre. À partir du moment où je suis passé de la campagne pour aller habiter à Dijon. Alors moi, ce qui m'attirait, c'était la fibre, parce que je jouais beaucoup à l'époque. Donc j'avoue, il y a des bienfaits aussi, hein, quand on aime les nouvelles technologies. Moi, je fais pas les magasins, tout ça ne m'attire que très peu, mais je me suis aussi rapproché de mon lieu de travail. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pensais. J'étais plus près de mon lieu de travail, mais je mettais beaucoup plus de temps à y aller en fonction des horaires. Enfin, il y a un truc qui te ralentit, alors la société veut que tu ailles plus vite, quoi. Et alors, j'utilisais pas les transports en commun parce que je devais m'excentrer de la ville pour aller travailler. Mais ouais, le gap était important à ce moment-là. Et depuis qu'on est retourné en campagne, je trouve que la vie est vraiment beaucoup plus facile. Enfin, je me suis beaucoup plus ouvert à la discussion avec ma conjointe aussi. Enfin, il y a des choses qui se développent plus facilement. Et c'est cool. Enfin, en tout cas, pour moi, je le vis vraiment très bien. Ce moment-là, ça a été assez révélateur d'un bien-être. Je voulais me rapprocher de la campagne, je voulais me rapprocher du calme et de la tranquillité. Et je mets autant de temps à aller au travail que quand j'étais en ville. Enfin, c'est voir les enfants qui sont dans le jardin, on a un potager, on a tous ces trucs-là. Enfin, c'est d'un calme incroyable, quoi. On n'est pas non plus si loin de la ville. Enfin, ouais, c'est le texte, je trouve, qui retranscrit vraiment bien ce que je vivais au moment où j'étais en ville, même si c'était pas un poids incroyable non plus sur les épaules, mais ça change quand même beaucoup de choses, je trouve.
Mais je trouve que ce que tu racontes, ça fait un peu référence, enfin tu me diras si je me trompe, mais au nom de votre groupe, ce que prosaïque, enfin la définition du mot prosaïque, c'est quand même qui est dépourvu de noblesse, de distinction et d'élégance. J'ai l'impression que c'est un peu ce que tu ressentais en ville, quoi, que t'avais ce... Bah voilà, quoi, que tu souffrais un peu, il y avait ce rythme qui accélérait, et qu'il y avait, enfin, c'était devenu trop mécanique, quoi, trop prosaïque finalement, comme dit.
Ouais. Je sais pas comment, je me souviens vraiment plus comment on a trouvé le nom du groupe, enfin, à quelle période. Je pense qu'on a fait au moins deux ou trois chansons avant de se dire, faudrait qu'on ait le nom du groupe avant de pouvoir sortir des choses. Et c'était ce truc, nous, on le prend dans la banalité, ce qui représente aussi ce que t'as dit. D'être en fait juste on est comme tout le monde, on cherche pas à sortir absolument de toutes les cases, mais après quand on va lire les textes, quand on s'intéresse à la construction des musiques, quand on s'intéresse à ce qu'on produit, on peut se rendre compte que le nom c'est plutôt une espèce de barrière de protection par rapport à ce qu'on veut réellement produire et réellement montrer au public et aux gens qui nous suivent.
Pour poursuivre un petit peu, parce que du coup, en fait, ce qui était intéressant dans l'album, c'est que justement, quand tu nous as envoyé les textes, on a regardé dans l'ordre les textes par rapport à l'ordre qui était mis dans l'album. Et je trouve que chaque titre se répond un petit peu. Je trouvais ça assez intéressant. Et du coup, si on passe sur le titre Arrogant. Alors, excusez-moi pour l'accent. ce titre, lui, il semble plutôt poser le constat que nous sommes incapables de ralentir, et il décrit du coup les conséquences un peu de tout ça, avec notamment la vision naturaliste qu'on a actuellement de notre environnement par rapport à notre société. Est-ce que tu penses que nous pouvons, du coup, inverser la tendance actuelle ?
Alors oui, du coup, l'Arrogant, il traite vraiment de ça et... en fait, l'impact qu'on a sur notre environnement, que ce soit notre environnement proche et l'environnement global, quoi, sur la Terre. Et par rapport à ça, est-ce que je pense qu'on peut ralentir ? Je trouve que ça va être difficile. Après, je suis assez pessimiste comme personne, mais je pense qu'en fait, individuellement, on peut tous se permettre de pouvoir ralentir un petit peu, de pouvoir retrouver un peu le calme que je voulais décrire dans Moments. Mais de manière globale, je pense que l'humanité aura énormément de mal à ralentir parce qu'on va devoir sacrifier sacrifier des choses qui vont coûter cher pour la plupart des gens, et pour moi inclus, hein, je veux pas me sentir au-dessus de personne. Mais ouais, le confort qu'on a et le confort qu'on obtient avec les nouvelles technologies, avec toutes les avancées, c'est en grande partie au détriment de tout ce qui est à côté, quoi. Donc moi, j'ai une vision très pessimiste de l'avenir et ça me fait un petit peu peur pour les enfants. Et même pour notre fin de vie à nous, je sais pas jusqu'à quel âge on vivra, mais je pense qu'on va voir de façon croissante une dégradation de l'environnement, une dégradation du niveau de vie et puis des fractures de classe. Enfin, même si c'est déjà le cas, je pense que ça va s'empirer. Et pour moi, la seule chose qu'on peut faire, c'est individuellement essayer de trouver une réduction du confort, une réduction de certaines choses pour pouvoir pallier à tout ce qui va se passer après. En étant en campagne, par exemple, je sais que nous, le potager, la façon de se chauffer, la façon de réutiliser des matériaux, ça fait partie des choses que j'essaie d'apprendre à mes enfants et essayer de se contenter d'un petit peu moins que ce qu'on pourrait avoir avec notre niveau de vie, ça en fait partie aussi. Mais je sais pas si on sera tous prêts à faire tous ces petits sacrifices qui nous feront aller un peu plus loin dans l'avenir, quoi.
Bah en fait, enfin, c'est que la question aujourd'hui, c'est aussi quand tu regardes ce qu'il y a à faire, c'est que pour tout le monde puisse les faire, faut aussi que les structures sociétales changent complètement, quoi. Et que le système économique change, que les incitations à la consommation changent. Enfin, en fait, il y a toute une refonte de la société qui doit changer, qui doit évoluer aussi pour que les gestes, enfin, pour qu'individuellement ça suive aussi, quoi.
Ah ouais, je suis totalement d'accord. Et c'est ce qui me paraît être le plus gros challenge qu'on va avoir. Hein. Si on a encore une possibilité de choisir dans ces périodes-là, mais en fait ça me paraît tellement gros, ça me paraît tellement difficile. C'est en place depuis tellement longtemps maintenant, même si c'est pas si loin par rapport à l'âge de l'humanité, mais ça me paraît tellement énorme que en fait pour moi ces puissances-là ont trop d'importance dans notre quotidien. On a l'impression d'avoir le choix alors qu'au final je pense qu'on l'a pas tant que ça. Et du coup, ce poids, en fait, pèse vraiment trop dans la balance par rapport à ce que nous, on pourrait décider pour l'avenir de nos enfants, pour notre avenir, pour l'avenir de l'écologie, pour l'avenir de tout. Il y avait une phrase, je ne sais plus du tout où je l'ai vue, j'ai une très mauvaise mémoire, mais il y avait ce truc de dire que l'être humain est peut-être un des seuls sur Terre qui sacrifie son environnement au profit du confort. Et je trouve qu'en fait, cette phrase, elle fait mal parce qu'elle est tellement vraie. Et c'est tellement difficile de l'accepter que je pense qu'on pourra pas se défaire de ça, quoi.
C'est un peu du coup la prochaine question, c'était à ton avis, pourquoi en fait on continue un peu de s'infliger ça dans nos sociétés capitalistes occidentales quand on voit justement les conséquences, mais on le voit. Alors là, tu réponds en partie justement aussi à cette notion de confort, mais il y a peut-être aussi une notion de pouvoir. C'est toi quand on sait que le capitalisme là en ce moment même il y a quand même une augmentation des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. On le voit par exemple avec le débat de la taxe Zuckman, ou même cet impôt qui est assez faible pour seulement certains foyers. En fait ça porte débat et c'est débattu même pour des personnes qui sont même pas concernées, qui sont contre. Enfin, en fait, ouais, effectivement, c'est y a un peu toute cette question-là, en fait, peut-être d'avoir peur d'autres choses, et puis ouais, en fait, c'est une notion de confort, quoi.
Ah oui, ça tombe bien parce qu'on est vraiment en plein dedans et le sujet, il est incroyable. Enfin, vraiment, on voit des personnes. Je travaille au chemin de fer, donc j'ai une place plutôt confortable dans la sécurité. Et je sais que dans ce milieu-là, enfin dans ces travails-là, il y a des gens qui vont s'indigner, ça va être un sujet de conversation pour des gens qui sont entre guillemets pas concernés, parce que ça, je pense que ça concerne quand même tout le monde en soi, de dire qu'on pourrait faire évoluer quelque chose, de taxer des personnes qui sont ultra riches. La hauteur, c'était combien? 0,4%, je me souviens plus.
Ouais, en gros, ça représente 1800 foyers fiscaux, quoi. Donc, c'est pas. Effectivement, c'est vraiment le très très haut du panier, quoi.
Et en fait, on est incapable d'arriver à se mettre d'accord sur ce sujet-là, alors que les gens ne sont pas concernés. Juste, on ne sait même pas qui a voté quoi. Enfin, pour moi, l'Assemblée nationale, ça a l'air très compliqué. J'allais dire une grosse blague, je ne veux pas être médisant non plus, mais on se demande comment on arrive à des décisions pareilles quand même. Enfin, moi, je trouve ça lunaire. C'est impressionnant. Et du coup, oui, ça relance encore un débat. De toute façon, le truc est passé et on va encore en entendre parler peut-être pendant 2 semaines. Et pendant ce temps-là, il y a toutes ces petites choses qui se passent et la temporalité, je trouve, est hyper importante en plus. On arrive sur une fin de mandat. Enfin, en tout cas, on se rapproche de la fin d'un mandat. C'est politiquement, si je peux me permettre, le bordel quand même. Enfin, il se passe tellement de choses. Et ça passe pas et ça va faire un sujet sur toutes les chaînes de télé que je ne regarde pas parce que je trouve ça insupportable. C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant et on sera jamais d'accord, on n'arrivera jamais à se mettre d'accord tant qu'on fera pas évoluer le système en soi, quoi. Enfin, c'est trop, pour moi, c'est trop difficile. Il y a aussi le truc de se dire que ça m'arrive aussi que l'inaction fait qu'on se déculpabilise aussi en partie de ce qui se passe. Même si l'impact n'aurait pas forcément été impressionnant ou en tout cas très utile, on se dit, de toute façon, si c'est pas passé, c'est pas de ma faute. Et c'est là-dessus où je pense qu'il va falloir qu'on évolue et c'est là-dessus, je pense que ça va être vraiment très difficile pour la suite, quoi.
Puis on remarque peut-être dans notre société actuellement qu'il y a peut-être un manque d'imaginaire d'imaginer, enfin justement, une autre façon d'évoluer notre société, une façon de la construire. Alors, il y a quand même des personnes qui travaillent déjà là-dessus, qu'on prend les travaux de Bernard Friot sur le salaire à vie, de Timothée Pike sur la décroissance, mais ça reste assez, pour l'instant, assez marginal.
Ouais, carrément, et moi, je le vois en deux, je vois deux choses là-dessus. C'est par rapport à l'imaginaire, pour moi, il n'a pas forcément toujours besoin à ce niveau-là, parce qu'il y a des choses qui existent déjà, qui sont déjà différentes de ce qu'on a... de ce qu'on a chez nous et qui pourrait être vachement inspirante pour l'adapter à notre société et qui fonctionne bien, quoi. Et les choses qui ne fonctionnent pas, qui ont déjà été testées, pour moi, c'est aussi la façon de montrer qu'on veut changer et qu'on attend du changement sur ce genre de questions. Et concernant l'imaginaire, malheureusement, je serais aussi pessimiste sur la question où, pour moi, cet imaginaire qu'on attend des gens est aussi bridé par la société. Par les plus gros lobbies qui sont en place, par la politique actuelle. On ne va jamais trop t'inciter à réfléchir sur comment changer ce qui est en place, parce qu'il y a des privilèges qui sont en jeu, des positions, et ça, c'est un fléau. Enfin, pour moi, c'est quand même assez brutal. Inhiber la créativité et la réflexion des gens, je trouve que c'est vraiment... C'est un concept que j'ai vraiment du mal à comprendre. C'est quand même impressionnant, quoi.
Ouais, et puis c'est que tu parlais qu'il y avait déjà des choses qui existaient. C'est que quand notamment on prend quand on parle de Bernard Friot, là, sa notion de salaire à vie, bon, lui qui est plutôt, c'était un économiste et aussi un sociologue, alors plutôt lui avec un parti pris orienté vers plutôt communiste. Mais lui, en fait, justement, il dit un peu ça. Il dit qu'il y a déjà là communiste. Alors, bon, vous savez qu'on peut prendre même sur des formes d'entreprise, qu'on voit par exemple la forme des SCOP, où là, c'est les salariés qui dirigent l'entreprise, qui sont propriétaires de l'entreprise. Il n'y a pas un patron avec des actionnaires, etc. Même qu'on voit au tout début ce qui était vraiment la sécurité sociale, tout ça. Là, ça, c'était vraiment des avancées. Social à l'époque où c'était les travailleurs en fait qui géraient le truc pour les autres. Donc en fait ça existe déjà. Il y a plus qu'en fait à pousser un peu ces modèles là au final.
Ouais, il y a plus qu'à appliquer en fait pour moi. Après c'est vrai qu'il y a peut-être besoin d'un petit peu tout de cette espèce de mix où il y a des personnes où effectivement, qui n'auront pas besoin de patron. En fait, on sait faire tourner les choses quand même sans patron et les ouvriers sont bien plus qualifiés que la plupart des patrons, en tout cas sur les domaines qui vont rester importants, parce que savoir monter un tableur pour savoir qui va gagner quoi à la fin du mois, c'est pas le plus important, quoi. Et ce travail-là et d'un autre côté, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'être managés, mais on peut aussi le faire d'autres façons. Les choses peuvent changer. Je connais des personnes qui sont dans des situations assez difficiles au niveau de leur travail. Et c'est la plupart du temps lié à les conditions de travail, à ce qu'on leur impose sur leur lieu de travail. Et ces choses-là sont imposées par les patrons, par les personnes qui gèrent les sociétés, qui ne subissent pas, du coup, cette pression-là pour au final gagner très peu d'argent, je sais pas si c'est très peu, mais en tout cas qui vont pas gagner suffisamment pour pouvoir élever leur niveau de vie, qui sont dans des situations précaires. Et ces personnes-là, on ne les entend jamais. Les syndicats ont jamais été aussi peu présents dans la société, enfin, il y a des choses qui sont graves, quoi. Des choses qui sont en train de se passer qui sont quand même assez graves. Et je le vois même au niveau de, à mon niveau, sur mon lieu de travail. Je travaille avec quelqu'un qui a 30 ans de boutique, qui a toujours été syndiqué et qui est un petit peu déprimé de la situation, qui pense que ça ne, enfin, qu'on arrive sur un blocage qui est inévitable et qui sera surtout irréversible. C'est-à-dire que là, le syndicat perd en poids dans la société. Et c'était quand même la chose qui protégeait les travailleurs. Enfin, ça a été créé pour ça. Et ça avait un impact et ça avait du poids, en tout cas pour la société que je connais. Et c'est en train d'être complètement inhibé. En fait, on ne veut plus que tu aies de solution, on ne veut plus que tu aies de choix. On veut juste que tu subissent la façon de vivre, et c'est grave.
Ouais, et puis les syndicats, en fait, ils n'ont pas non plus pour eux un intérêt de remettre en question totalement le truc, parce que c'est aussi en fait, avec tout ça qu'ils existent aussi, donc c'est que c'est un peu... Enfin, on en revient un peu à ces questions de pouvoir aussi, c'est que eux, si jamais ça bouge trop, au final, ils vont perdre aussi de leur pouvoir derrière, quoi.
Ouais, c'est le risque, en fait, hein. C'est toujours ce que tu risques qui te fait réfléchir et qui te fait prendre des décisions parfois que tu n'aurais pas choisies. Et moi j'ai changé d'affectation, enfin de lieu de travail. J'ai été 7 ans sur le même poste et je devais changer pour un poste. C'est moi qui l'ai voulu aussi, ce changement, mais je devais changer pour un poste d'une technologie que je ne connaissais pas, des nouveaux collègues, des nouveaux dirigeants, et ça m'a fait me poser cette question. Et j'avais jamais trop vécu ce stress et cette angoisse. Et c'est en discutant avec ma conjointe où je me suis dit, effectivement, ça a un impact aussi sur moi, ce choix-là, que pourtant j'ai débuté. Et il y avait cette chose de, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Comment ça va se passer pour la suite? Je savais que mon salaire était sécurisé, mais il fallait quand même que mes compétences me permettent de tenir mon poste. Et en fait, tu te remets en question et c'est assez effrayant. Enfin, je trouve que ça, c'est une barrière qui est difficile à passer. Et par exemple, notre bassiste Jérémy, il a cette barrière, il l'a pas plus que ça quand il a fallu élever sa qualité de vie au travail. Il a pas hésité à faire ce choix-là, et c'est des choses que j'admire quand même plutôt. C'est quelque chose qui est assez admirable, je trouve. Et ce gap-là, il est assez difficile à passer. Et quand on revient sur le niveau des syndicats, effectivement, il y a des syndicats qui vont se contenter, entre guillemets, hein, je veux pas non plus rejeter la pierre sur les personnes qui travaillent dans ce genre de domaine, mais qui vont se contenter d'un accord quand on aurait pu être complètement en désaccord avec la boîte en question, et se dire, mais non, ça, en fait, ce n'est pas possible de continuer à travailler dans ces conditions-là. On va garder des conditions de travail qui restent inacceptables, mais on a réussi à obtenir quelque chose à côté. Et je sais pas si je suis assez bien placé pour dire si c'est un bon choix ou pas d'arriver à un accord avec les patrons, avec les dirigeants, mais c'est pas ce qui était prévu à la base, et c'est ce qui permet, je trouve, en fait, au système qui est en place de rester en place et même de prendre de plus en plus d'ampleur et de continuer à fracturer la société.
Oui, mais tu vois, c'est comme tout à l'heure, on parlait de l'attaque Zuckman, justement. Toi, c'est des mesures qui sont nécessaires, mais qui vont pas remettre fondamentalement en cause le système actuel capitaliste. Toi, c'est ce qu'expliquaient des gens comme Frédéric Lordon, ou même la philosophe Alice de Rochechouart, qui disait que en gros, pour que cette taxe existe, ça présuppose que des gens ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Et en gros, faut aller plus loin que ça et de dire qu'il faut pas qu'il y ait des gens qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Et du coup, comme on parlait de ça, c'est qu'il y a des choses, on peut se dire, ah bah ouais, c'est ça existe déjà, il y a des choses qui vont dans le bon sens, mais finalement, quand on creuse, on se rend compte qu'elles s'insèrent toujours dans une logique capitaliste, quoi. Et d'ailleurs, Zuckman, lui, quand il parle, il remet pas vraiment en cause le système capitaliste.
Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est je sais même pas si les gens se rendent compte. 100 millions, il faudrait combien de foyers d'ouvriers un petit peu classiques pour arriver à ce montant-là, quoi. Et ça, c'est le patrimoine d'une famille ou de quelques personnes. Et je sais pas, ils sont peut-être trop puissants, ils font peut-être peur. Mais on n'arrive pas à taxer une partie de ce patrimoine. Je sais pas si c'était un sujet qui est arrivé par la suite, mais on peut parler de crypto-monnaie. C'est cet argent qui est un peu en dehors de la société, en fait, qui est produit en dehors de la société. Il n'y a pas besoin de travailler en France pour produire cette crypto-monnaie, mais si tu habites en France et que tu décides d'investir dedans, l'État a quand même la main mise sur 30% de ce que tu as. Que tu aies 100 euros ou que tu en aies 100 000, il il y a 30% qui partira à l'État à partir du moment où tu veux le, si tu veux l'utiliser, ce que tu veux utiliser ce montant-là. Et il n'y a pas eu de sujet plus que ça. C'est-à-dire que les gens ont plutôt bien accepté ce truc-là. Tu dis, OK, je suis en France, on me demande de taxer. Et on est incapable d'aller taxer les plus grosses fortunes de France, qui pour la plupart, je suppose, sont quand même plus trop ancrées en France. Ça montre à quel point c'est tellement difficile de faire changer des choses aussi, enfin, j'ai l'air subtil pour nous, qui serait peut-être pas si subtil pour quelqu'un qui a 100 millions, 200 millions ou plus, mais c'est dérisoire par rapport à ce que les classes sont taxées actuellement en France, quoi.
Et t'as Mark Fisher là, qui est un philosophe anglais, qui justement qui a dit qu'il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et est-ce que justement l'art et la musique peuvent aussi aider à entrevoir ce changement, quoi ?
Est-ce que l'art et la musique peut... Ouais, je pense que ça peut débloquer en tout cas des situations, que ça peut amener à avoir des choses nouvelles, ça peut amener à penser différemment. Est-ce que ça sera le plus gros changement ? Je sais pas.
Non, mais au moins, tu sais, dans... permettre déjà de véhiculer des messages, peut-être par un autre biais, tu vois, c'est que... C'est qu'on voit, par exemple, il y a des études là, qui montraient que le métier de journalisme était en ce moment très mal perçu, très mal vu. Qu'il y avait, apparemment, tu as quand même beaucoup de personnes qui ont plus trop confiance dans ces métiers-là. On voit au niveau politique pareil, en fait, que les gens n'ont plus confiance non plus en fait, envers les hommes et femmes politiques. Alors, est-ce qu'en fait, là, ouais, effectivement, ça peut être un moyen. Du coup, la musique, ça rentre là-dedans aussi Bah, peut-être dans un autre biais d'essayer de faire passer des messages. Alors après, c'est plus subtil, donc peut-être que ça prend plus de temps derrière.
Ouais, si. Moi, je pense, en y repensant à la question, je pense carrément que ça peut permettre de véhiculer des messages et de continuer dans cet esprit un peu positif, de dire qu'on pourra faire des choses et qu'on peut faire des choses différentes et réussir à les appliquer sur le quotidien de manière individuelle, de manière collective. Après, le seul souci est... Je pense que ça reste un gros problème. C'est les médias qui présentent les choses de telle ou telle façon. Enfin, les médias sont contrôlés par les lobbies et ces lobbies-là ont une mainmise quand même assez importante sur ce que les gens vont voir, vont assimiler au quotidien. Et en fait, ces messages-là, ça permet pas la créativité, ça permet pas tout ça. Et je pense que se défaire de ça. Et se rapprocher vers des médias un petit peu comme vous pouvez présenter, ou ce que va présenter un petit groupe, ou même un groupe parfois plus important, est quand même assez, c'est assez réduit, je trouve, l'impact. Mais pour la personne qui va réussir à aller au-delà de tous ces médias, de tout ce qui va te bloquer, je trouve que carrément, l'art, c'est hyper important au quotidien. Enfin, j'ai peu de choses qui me tiennent autant que la musique, par exemple. Pour moi, c'est hyper important. J'écoute toujours de la musique. J'essaie de mettre mes enfants là-dedans et qu'ils écoutent de tout. C'est-à-dire que j'écoute principalement du métal, mais eux, ils vont se rapprocher d'un petit peu tout. Et je pense que quand on fait le mix de tout ça, sans compter en plus tous les arts qui peuvent être à côté, que ce soit au niveau de la peinture, au niveau de la poésie, tout ce qui est lyrique, pour moi, ça me parle beaucoup. C'est sûr qu'on trouvera de la positivité et de la créativité qui est hyper importante, je trouve, pour le développement des êtres humains et pour le développement de la société de manière générale. Ouais.
Mais c'est vrai que, en fait, l'art, enfin, ça a déjà été vu que ça a pu souder des communautés. Par exemple, bah, tu parlais de la poésie. La poésie, c'est plus qu'un simple texte joliment posé sur une feuille, c'est vraiment un outil de combat. Moi, je prends souvent l'exemple de Langston Hughes et d'Audre Lorde qui, par leurs textes pendant les mouvements des droits civiques aux États-Unis, ont vraiment unifié les Afro-Américains autour de ce combat-là. Il y avait même un professeur américain qui montrait que Martin Luther King, sans le nommer, avait repris dans ses textes, dans ses plaidoyers, des messages de Langston Hughes qui mettait dans ses poèmes. Et eux, ça a vraiment été montré que ça avait vraiment soudé des communautés entières. Quoi.
Ouais, je trouve ça hyper intéressant, du coup, parce que le discours devient l'art qui te permet de faire des gros changements, du coup. C'est trop intéressant. Je sais qu'on, quand on parle de Prozaïque, enfin de nous, on a peu d'impact sur les gens parce qu'il faut déjà qu'on puisse nous écouter, il faut qu'ensuite on puisse s'intéresser à comment les choses ont été produites, comment sont écrits les textes et de quoi parlent les textes. Donc c'est des démarches qui peuvent être difficiles pour pas mal de monde. Mais j'aime toujours à croire que ce qu'on a produit pourra parler à des gens et pourra peut-être faire changer des choses, pourra améliorer le quotidien de manière subtile, mais pourra faire plaisir, ajouter un petit peu de bonheur sur les personnes qui font cette démarche d'aller chercher les choses. C'est hyper important. C'est sûr que c'est hyper important. Je suis toujours pessimiste sur l'impact que ça aura au final sur la fin. C'est parce que c'est très pessimiste, mais quand on fera le bilan, le poids de l'art par rapport à tout ce qui était à côté sera peut-être pas important, mais pour les personnes qui le cherchent et pour les personnes qui en ont besoin, je pense que ça a un impact incroyable.
Pour poursuivre un petit peu, puis parler d'un petit peu un autre sujet, on a regardé aussi les paroles du titre Portrait, qui parle plutôt de notre rapport aux réseaux sociaux, à nos smartphones. Est-ce que ces technologies, on peut finalement nous empêcher justement d'imaginer d'autres choses, alors que les réseaux sociaux, à la base, c'est un peu le message qui a été porté, mais avait ce message de créativité.
Ouais, je pense que ça a pas mal changé. Enfin, en tout cas, le rapport aux réseaux sociaux a pas mal fait évoluer les choses. Si je parle d'un point de vue personnel, moi, ça m'a plutôt aidé. Enfin, des réseaux sociaux, même de pouvoir en fait être en relation avec des personnes que t'aurais sûrement jamais pu rencontrer, avec qui t'aurais jamais pu discuter. Ça m'a pas mal aidé parce que j'étais assez casanier. À partir du moment où j'ai eu un PC portable, j'ai passé beaucoup de temps sur les jeux quand même. Et le fait de pouvoir t'ouvrir à des communautés différentes, à des personnes, c'est ça que t'aurais jamais rencontré. Ça m'a permis de rencontrer du coup pas mal de monde et de voir d'autres choses. Maintenant là, si je devais faire le bilan en 2025, je pense que ça s'est vachement individualisé. L'utilisation des nouvelles technologies, ça nous a un petit peu enfermé dans un truc qui est pas incroyable, je trouve. Et ça me fait assez peur, c'est l'impact que ça va avoir sur les générations qui suivent. Parce que je trouve que ça a déjà un impact lourd sur notre génération, même sur la génération précédente. Pour la génération, même avant celle de mes enfants, ils ne connaissent que ça. Ils ne connaissent que ça Mon plus grand, qui va bientôt avoir 6 ans, connaît déjà TikTok, connaît déjà Facebook, connaît déjà ces choses-là, alors qu'on ne les utilise pas à la maison en plus. Moi, je suis sur les réseaux, enfin, j'ai Facebook, c'est pour l'utilité du groupe principalement, pour pouvoir partager ces choses-là, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est une vitrine quand même assez importante pour le développement des projets, mais on ne l'utilise pas au quotidien, et pourtant, il y a des choses qui arrivent à la maison chez nous. Des fois, on entend parler de certaines choses, tu te dis, mais comment c'est possible? On ne te montre pas ça, et en fait, ce pouvoir qu'ont les réseaux sociaux à isoler les gens, c'est effrayant. Pour moi, c'est vachement effrayant. Et je pense que c'est une utilisation détournée parce que ça génère du profit, parce que ça génère de la publicité, parce que ça permet à des entreprises de se développer et pas forcément les bonnes en plus. Donc, je trouve qu'à la base, c'était un bon moyen de s'exprimer, un bon moyen de pouvoir faire valoir ce qu'on produisait, l'art qu'on voulait montrer, ce qu'on voulait faire passer comme message. Maintenant, je trouve que c'est vachement noyé dans de la désinformation, dans des choses qui sont plutôt plus vraiment créatives. Là maintenant, il y a un effet un petit peu mouton, je trouve, sur les réseaux sociaux. Et c'est assez effrayant quand même.
Ouais, mais c'est vrai que c'est ce que tu disais, c'est que maintenant, sur les réseaux sociaux, quand tu vois les plus jeunes, il y a aussi ce truc-là de suivre un peu les modes, les trends, etc. Où du coup, t'as l'impression qu'il y a aussi peut-être une forme d'uniformisation. En fait, en gros, c'est que les réseaux sociaux, c'est que c'est cool dans le sens où... Enfin, même pour nous, tu vois, quand... nous, on s'est jamais vu en vrai, donc tout s'est fait via Instagram, etc. Enfin, genre de truc, quoi. Donc c'est que ça permet d'échanger sur pas mal de trucs. Mais en fait, il faut juste apprendre à la limite à s'en servir correctement. Et puis et pas en fait passer sa vie non plus là-dessus, quoi. C'est juste un outil qui doit venir en plus en cas de besoin, quoi.
Ouais, mais le truc, c'est que les réseaux sociaux sont justement designés pour que tu passes du temps, quoi. Donc en fait, il y a toujours cette ambivalence entre responsabilité individuelle qui finalement peut être remis en cause, et puis en fait la responsabilité des plateformes et des gens qui créent ça.
Et puis en plus, la responsabilité individuelle sera toujours mise au premier plan pour dénoncer les lacunes d'un enfant, ça va être la faute des parents, ça va être la faute de son environnement, alors qu'en fait tout est fait pour que tu bouffes des écrans, pour que tu bouffes du défilement automatique. Enfin, c'est quand même impressionnant. Et effectivement, en fait, moi je pense que du coup notre système est archaïque. L'apprentissage qu'on donne aux enfants à l'école aurait dû évoluer depuis maintenant quand même quelques années, parce que l'utilisation des réseaux sociaux, pour moi, ça devrait être je vais pas dire une priorité, mais ça devrait faire partie de l'éducation qu'on donne aux enfants, mais dès le plus jeune âge. Quand un enfant de 5 ans parle déjà de réseaux sociaux, de TikTok, de Facebook, d'Instagram, c'est défiler sur un écran, c'est cliquer sur des vidéos et puis changer, passer les pubs, parce que on bouffe des pubs, mais c'est quand même que les pubs, c'est chiant, il faut quand même les passer. Enfin, c'est effrayant. Et là, on n'a pas évolué sur ce domaine-là, ou en tout cas très peu. On nous apprend toujours qu'il peut y avoir des événements graves, donc on fait quand même des petits événements, comment se comporter si on a des terroristes dans l'école, mais on t'apprend pas à comment gérer ces situations, enfin les nouvelles technologies, comment s'en servir, comment quel impact ça a sur nous. Et du coup, en fait, c'est aux parents de devoir faire tout ça, c'est aux parents de devoir faire attention. Et en fait, c'est un poids énorme. Enfin, je sais que moi, j'aime beaucoup les écrans, et du coup, j'essaie de faire attention, mais c'est pas toujours facile. Et des fois, on est happé par un truc, on est happé par sans forcément parler de pub, mais par un jeu, par tout et n'importe quoi, et ça va très très vite. Rien n'est fait pour que tu puisses contrôler un petit peu cette utilisation. Enfin, ouais, c'est hyper important de pouvoir faire un petit peu de prévention, de pouvoir faire un petit peu de prévention. Je sais même pas comment le dire autrement. C'est grave, mais on parle de prévention sur l'utilisation d'un téléphone. C'était pas le plan prévu à la base, je pense.
Ouais, et puis. Alors justement, toi, dans des titres comme Nightfall et Define My Gravity, tu parles justement de santé mentale et de souffrance. Enfin, on sait que les réseaux sociaux, ça a aussi un impact sur tout ça, surtout sur des personnes qui sont assez jeunes. Je pense que dans ces deux titres, il est aussi question d'arriver à se définir, de rechercher sa propre identité. Est-ce que justement c'est un peu plus compliqué de faire ça actuellement, qu'on voit justement ce qu'on disait là, cet impact sur les réseaux sociaux, puis aussi toutes les injonctions dans la société, etc. Est-ce que c'est un peu plus dur en fait d'arriver à se connaître un peu soi-même maintenant?
Ouais, ce qui est dommage, c'est que ça devrait pas, mais je pense que ça l'est. Ouais, c'est un petit peu plus dur. À mon avis, la créativité que les gens pourraient avoir passe un petit peu en arrière-plan. Cet effet un petit peu mouton cet effet prosaïque, du coup, tout devient banal. Je vais pas dire que les gens tombent dans un manque d'originalité, mais on est trop attiré par copier ce qui marche, copier ce qui fonctionne. Et en fait, la créativité passe à côté. Donc, je pense qu'on se définit aussi par notre créativité et ce qu'on peut produire, ce qu'on peut amener au sein de notre environnement, même au sein de la société. Et le problème, c'est qu'il y a rien qui fait pour valoriser cette créativité. Et au contraire, on est plutôt dans le manque d'originalité. Et je blâme personne, attention, hein, je veux pas passer pour quelqu'un qui donne des leçons. Mais là, tout ça, je trouve que ça nous a enfermés dans un truc où on n'est pas là pour se définir nous-mêmes. On est défini par tout ce qui se passe à côté, et on est en train de bouffer des informations qui sont quand même pas très utiles, je trouve. Même si ça permet de s'échapper d'un quotidien qui est parfois difficile, on pourrait le faire en étant plus créatif, en allant chercher des trucs qui sont quand même plus intéressants. Et du coup, je trouve ça vraiment dommage qu'on est en train de s'enfermer et de s'individualiser. Et en plus, cette individualité, elle n'apporte pas grand-chose au quotidien. En tout cas, pour ce que je pourrais en dire sur le sujet.
Mais tu parlais justement de créativité. En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que moi, je trouve que le mot créativité, on l'écoute vachement, mais dans des domaines qui sont justement très prosaïques. En termes de management, ils vont parler de créativité. Dans le monde économique, ils vont parler de créativité. Dans le monde de l'entreprise, ils vont parler de créativité. Mais on sent bien que c'est une créativité qui est au service, toujours, on en revient un peu au même truc, mais un peu au service du capital, quoi, hein, de faire de l'argent et tout ça. En fait, on parle plus de créativité, entre guillemets, plus poétique, parce qu'on sent bien que c'est des choses qui sont plus difficilement rémunérateurs et qu'en fait, c'est des choses qui sont mises en marge de notre société. Et on insère ce mot créativité maintenant dans des trucs très, très prosaïques, quoi, au final.
Ouais, je suis d'accord. Si la créativité au niveau des entreprises, ça a été passé de bureaux un petit peu fermés à open space, c'est un peu triste quand même. S'il y a juste ça qu'on peut se permettre de parler en créativité, c'est compliqué. Je sais qu'il n'y a pas que ça, mais c'est oui. C'est, on n'est pas en train de parler de la créativité au niveau de la production et au niveau de ce que les gens peuvent apporter. On est en train de parler de créativité sur regardez comment j'ai fait évoluer ma feuille Excel ou regardez comment j'ai fait évoluer le fond d'écran d'un ordinateur. Enfin, c'est peut-être que ça reste de la créativité, et peut-être que je suis métisant, mais
ouais, non, mais en fait le problème c'est que ils dévaluent complètement ce mot-là. Ils se le sont eux approprié dans leur vocabulaire, mais ils le vident de leur sens. Enfin, ils vident ce mot de son sens.
Quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est enfin ouais. En plus, j'aime bien ce mot. Je trouve qu'il est beau. Il est impactant quand on parle de créativité. Et effectivement, comme tu dis, il est dévalué là-dessus. C'est passé de créativité réellement artistique et je sais pas, qui vient un peu du fond des tripes à quelque chose de, oui, c'est ça, de très banal. Et c'est un petit peu triste quand même. En fait, c'est pour ça que je suis assez pessimiste sur quand même pas mal de sujets. C'est que j'ai l'impression qu'on avait des choses qui fonctionnaient et qui étaient assez belles. Et la société les rend vraiment grises et tristes. Et c'est ce qu'on essaye, en tout cas, dans le foyer on essaie de remettre un petit peu de couleur sur ce truc-là, quoi, de leur montrer qu'il y a des choses qui sont possibles. Et même si ça reste individuel, c'est des choses qu'ils vont pas forcément partager avec d'autres personnes. Au moins, ils auront cette petite étincelle quand il le faudra. En tout cas, je l'espère. Et s'ils veulent s'en servir, c'est surtout s'ils veulent s'en servir, ça sera disponible. Et je trouve que c'est ça qui est important, en tout cas actuellement.
Mais toi, c'est vrai que pour moi, ce que j'aime bien rappeler ce truc-là, justement, on parlait de créativité insérée dans le monde prosaïque ou dans le monde poétique. C'est vrai que le mot poésie, étymologiquement, alors je sais plus si c'est du latin ou du grec, mais ça veut dire création, quoi.
Ouais,
poésie. C'est poésie, ce qui veut dire création, et du coup, on. Enfin, voilà, je trouve que la création s'insère très bien dans ce milieu poétique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, hop, ils l'ont mis dans le prosaïque, qui est pas le sens original du mot.
Ouais. Puis, alors pareil, je sais pas si c'est un sujet qui sera développé plus tard, mais je trouve que ça va pas forcément dans le bon sens. Même, je suis assez admiratif de ce que peut produire l'intelligence artificielle. Ça ne va pas nous aider à être créatifs, en tout cas la façon dont on s'en sert actuellement pour les intelligences artificielles qui sont dans le domaine du chat ou de la recherche d'informations. Enfin oui, du coup en fait maintenant une intelligence artificielle peut nous produire un texte, mais c'est pas créatif, ça manque d'originalité, ça manque de tout, ça devient prosaïque, ça devient banal, et le problème c'est que ça devient une norme. Et je pense que ça va compliquer un petit peu les choses, c'est-à-dire qu'un texte qui va être fourni par un humain, qui va avoir réfléchi au sens des choses, qui va avoir passé du temps dessus, passé de l'énergie, et sera comparé à un texte d'intelligence artificielle. Et je pense que les gens pourront préférer largement un texte de l'intelligence artificielle parce qu'il va parler beaucoup plus facilement aux personnes qui vont le lire. Et ces personnes-là ne vont pas forcément aller faire l'effort d'aller comprendre ce que l'auteur a voulu faire, ce que l'auteur a voulu retranscrire. Donc en fait, on tend vers un truc qui sera de plus en plus banal. Et ça fait quand même assez peur, je trouve.
Pour terminer tranquillement, du coup, quel message tu aimerais faire passer pour inciter les gens à défendre quand même toutes ces idées malgré le contexte actuel ?
Quel message ? Je pense qu'il faudrait, savoir s'écouter, il faudrait savoir écouter les autres. S'il faut continuer à dialoguer, il faut continuer à se retrouver, il faut continuer à avoir ces moments de vie, de créativité. Enfin, c'est quelque chose que je trouve hyper important, même si je le parle comme si c'était c'est facile à mettre en place, mais moi j'ai encore beaucoup de mal à parler de pas mal de choses, même au sein de mon propre foyer. Et avant, je pense que j'aurais même pas pu dire ça. Je le dis parce qu'on me force aussi à parler, que ce soit de sentiments ou même de manière générale, et ça reste hyper important. Ça évite les conflits, ça évite, même si le conflit peut être important, ça évite que ça s'envenime. C'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, et je pense qu'on a tous besoin de se remettre aussi un petit peu en question sur pas mal de choses, parce que ben, en fait ça amène le dialogue et ça amène la conversation, et c'est pour moi le plus important. Quand on reprendra le temps de discuter, de se confronter à des problèmes plutôt que de les esquiver ou de les mettre un petit peu de côté, on pourra grandir un petit peu dans notre prise de conscience, dans cette chose qui est en train de nous individualiser et qui nous permettra de retrouver peut-être de la collectivité, ou en tout cas de passer des moments de créativité, de joie, qui sont quand même hyper importants au quotidien.
Et ben merci Benjamin.
Ben non, merci à vous.
Merci.
Et voilà, c'est tout pour cet épisode, en espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous sur move.tract.fr, rubrique blog, pour découvrir le travail et l'album Defini Gravity de Prozaïque. Pour nous contacter afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou par mail à hello@tract.fr. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de Tract en tapant tract.move dans la barre de recherche d'Instagram. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. À bientôt.